De quoi est-ce qu'on parle pas assez? Mais de Jacques Perrin, tiens, ce matin, qui a toujours été très discret, mais qui reste pourtant gravé dans nos mémoires, dans les mémoires de chacun, en jeune marin qui rêve dans Les Demoiselles de Rochefort, ou en enfant prodigue dans Cinéma Paradiso, ému aux larmes devant les scènes de baisers censurés des projections de son enfance, de la façon dont le cinéma en particulier et la culture en général peut forger des imaginaires, des représentations, des engagements. On ne parle pas assez de toutes les fois où il était dans l'ombre, Jacques Perrin, de microcosmos, du peuple migrateur ou d'océan. Ces films qui ont contribué à mettre en avant l'infiniment fragile du monde que l'on habite. Ça aussi, c'est un sujet, ou plutôt un défi, qui est toujours un peu éclipsé dans les campagnes électorales, alors que si ça se trouve, c'est le seul qui compte. 18 minutes sur 3 heures dans le grand face-à-face, 5% du temps d'antenne pendant toute cette campagne présidentielle, on n'en a pas assez parlé. En fait, il faudrait peut-être s'interroger non plus sur l'actualité qui est une construction médiatique, culturelle, politique, mais plutôt sur les sujets qu'on a mis de côté, inconsciemment ou pas, sur tout ce qu'on a oublié et qui promet de revenir nous hanter comme un retour du refoulé. Qu'est-ce qu'on passe toujours sous silence? Qu'est-ce qu'on fait semblant de ne pas voir? De quoi est-ce qu'on ne parle pas assez?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi mon invité d'aujourd'hui a-t-il envie de parler? Il est rappeur, l'un des membres fondateurs du ministère amer, mais aussi comédien, au cinéma, dans Les Jolies Choses, avec Marion Cotillard notamment, mais aussi à la télévision et au théâtre. Un jour, j'irai à Détroit, c'est le nom de la pièce qu'il a coécrite avec David Desclos et qu'il joue actuellement au théâtre du Gymnase. C'est un texte très fort où il rend hommage aux tirailleurs sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale, à leur courage, à l'injustice avec laquelle ils ont été traités, mais aussi au destin commun qu'il partage avec d'autres héros inconnus. Bonjour, Stomy Boxy.
Bonjour, Augustin.
Merci beaucoup. Ouais, je vais très bien. Merci d'être avec nous. Je me suis demandé, pour vous, de quoi ne parle-t-on pas assez?
Bah, justement, des tirailleurs sénégalais. Mais pas que la pièce de théâtre, en fin de compte. C'est vrai qu'on met l'accent sur le personnage de Djili que j'incarne, le tirailleur sénégalais. Mais il y a aussi ce soldat français, Marcel Brovent, qui a été fusillé parce qu'il avait refusé de porter le pantalon d'un mort. Et aussi, il y a le soldat américain, Igor Ladzi, qui a été aussi fusillé parce qu'il avait peur sur le front, sur le champ de bataille.
Oui, ce sont les anonymes de l'histoire, en fait.
Voilà. Mais c'est vrai que les tirailleurs sénégalais, le blanchiment des troupes, la cristallisation des soldes, tout ça, on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est l'histoire de France.
L'histoire du massacre de soldats sénégalais dans la caserne de Thiaroye au Sénégal en 1944, par exemple. Comment est-ce que vous en avez entendu parler?
Bah, mon papa, il est d'origine capverdienne, mais il a grandi au Sénégal. Toute la famille de mon père, du côté de mon père, c'est des capverdiens du Sénégal.
Parce que c'est très proche, il faut le dire.
Ouais. Sûr, juste à côté. Et donc mon père, il avait ça en lui, il avait cette révolte, il m'en a souvent parlé quand j'étais petit. Et un jour, il y a un peu plus de 2 ans, il m'envoie un message et il m'envoie une capture d'écran avec un reportage sur YouTube. Il me dit, mon fils, faudrait absolument qu'on fasse une pièce de théâtre ou un film sur le massacre de Thiaroye. Je lui dis, ok papa, je vais réfléchir. Et une semaine ou 2 semaines après, mon ami David Desclos, il me dit, Stomy, j'ai une idée de film. D'une pièce de théâtre, j'ai écrit 10 pages, ça serait bien qu'on écrive la pièce de théâtre sur le massacre de Thiaroye et sur l'histoire de ce tirailleur sénégalais. Je lui dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Je dis, mon papa, il vient de m'envoyer ça il y a 2 semaines. Je lui dis, on fonce, viens. J'étais en tournée avec tout le secteur A, avec Doc Gynéco, Passy, Arsenic, Nec Marron, puis Bacardi, MC Janik. Et je lui dis, viens me voir à Rouen. Et il est venu, il m'a apporté le texte, les premières pages, les prémices. Et je lui dis, mais c'est incroyable, c'est un signe des ancêtres.
Alors dans cette pièce, le personnage que vous jouez apprend ce massacre dans une lettre que lui a écrit sa mère, et j'aimerais que vous nous en lisiez un extrait, Stomy Boxy.
Je dois te dire qu'ici, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il s'est passé quelque chose de très grave. Je suis désolé, mais tu dois le savoir. Nous avons appris la mort de tes camarades soldats. Ils auraient dû t'écouter, faire comme toi et ne pas monter sur ce bateau. Car arrivés à Dakar, ils ont tous été internés au camp de Thiaroye. Là-bas, ils ont réclamé le paiement de leurs soldes, mais l'armée a refusé, voulant leur donner qu'un petit peu. Le ton est monté avec un général, il a alors promis que tout serait réglé dans les 24 heures. Mais au petit matin, ils ont ouvert le feu sur le camp à coups de canon et de mitrailleuses. Il y a eu plus de 70 morts et autant de blessés. Le monde devient fou, mon petit. Les familles n'ont même pas pu récupérer les corps pour leur offrir de dignes funérailles. Nous t'attendons tous. Pour nous, tu restes un héros. Reviens vite. Ta maman qui t'aime.
Vous êtes ému, Stommy Bugsy. Parlez de ces pans oubliés, souvent occultés de l'histoire liée à la colonisation. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous, particulièrement aujourd'hui?
On est souvent en rapport avec une historienne qui s'appelle Armel Mabon, qui a travaillé sur depuis plus de 20 ans, qui a été recherchée dans les archives, dans les ministères, à l'armée, au Sénégal, à Tiaroy. Et on s'est beaucoup basé sur ses écrits à elle. On aimerait que vraiment un jour, tous ces soldats qui ont été fusillés, qui ont été trahis par l'armée française, malheureusement, soient réhabilités, amnistiés, et qu'ils aient enfin une pierre tombale avec écrit « Mort pour la France » et que leurs enfants soient pupilles de la nation et qu'on leur donne enfin leur salaire de soldat et leur solde de captivité.
Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que vous apparaissez dans un projet qui réfléchit sur notre mémoire collective. Je pense par exemple au film de Guy Delaurier qui s'appelait Aliker, sur un scénario de Patrick Chamoiseau, et qui racontait la vie de ce journaliste et militant communiste antillais qui a pris la plume dans les années 30 pour dénoncer un scandale financier sur fond de violence coloniale. Il en est mort d'ailleurs. Aliker, de quoi c'était le symbole pour vous?
Aliker, déjà, c'est un grand journaliste. C'est vrai que c'est un militant, mais c'est un journaliste d'investigation. Il a créé le journal Justice, qui est à la base un journal communiste, mais après, petit à petit, il se détache du communisme et devient humaniste. Aliker, c'est le symbole en Martinique de la répression des grands usiniers, des béquets qui étaient en train d'exploiter le peuple antillais. Et son petit frère, jusqu'à présent, son petit frère qui est mort il n'y a pas longtemps, Pierre Aliker, qui a vécu au moins jusqu'à 103 ans ou plus, il a toujours porté le deuil de son grand frère.
Et c'est un film, Stommy Bugsy, qui a été très difficile à faire, je crois, qui a suscité beaucoup d'hostilité. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand Guy Delaurier et Patrick Chamoiseau ont apporté le scénario au CNC, on leur a dit, mais c'est pas possible une histoire comme ça. Mais Guy Delaurier leur a dit, mais c'est une vraie histoire.
C'est ça.
Des Antilles, de la Martinique. C'est un héros, Pierre Aliker. André Aliker, vous voyez. Et Pierre Aliker, son petit frère, c'était le bras droit du grand Aimé Césaire. Et c'est vrai que c'est un film où on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à être diffusé en salle, à être produit. Mais Guy Delaurier est un battant.
Dans quelle mesure, pour autant, c'est peut-être moins périlleux aujourd'hui, près de 15 ans après, d'aborder des sujets comme ceci, des sujets qui touchent à la part la plus sombre de notre histoire?
Déjà, le cinéma en lui-même, avec toutes les plateformes, même pour amener les gens au théâtre. Les gens, avec le confinement, ils ont tellement été amenés, même pour se livrer à manger. Les gens, soit ils ne cuisinent pas, soit ils ne vont pas au restaurant, ils se font livrer directement chez eux. Et avec le confinement, les gens restent chez eux. Et donc, amener tout simplement les gens au cinéma, avec la peur du coronavirus, etc.,
c'est déjà
un exploit déjà. Ouais. Alors, un film militant, et un film militant et qui traite de l'histoire des Noirs en France, c'est encore plus dur, malheureusement.
Mais c'est plus facile de parler de ces sujets-là aujourd'hui?
Il y a des journalistes comme vous qui m'invitent et qui parlent de ces choses-là. Donc, il y a des gens ouverts d'esprit en France.
En tout cas, cet esprit de revendication, très radical d'ailleurs, il était au cœur même de la musique que vous proposiez au début des années 90 avec le ministère Amer, dans des titres comme « Damné » ou « Au-dessus des lois » sur le racisme ou dans « Garde à vue » sur les violences policières. En quoi ces titres, Stommy Bugsy, vous pourriez encore les dire, les écrire aujourd'hui?
Quand on voit le nombre de bavures en France, on se dit que malheureusement, presque rien n'a changé. Je vais pas mentir, j'ai l'impression qu'il y a plus de policiers jeunes. Il y en a plein qui ont grandi avec du rap, qui ont écouté du rap. Et en même temps, il y a autant de bavures. Donc j'arrive pas... Les policiers que je rencontre, moi, personnellement, ne sont pas les mêmes que j'entends ou que je vois dans des reportages où les policiers qu'ont tabassé Michel Zecler, chez lui, dans son studio, à plusieurs, et qui se sont acharnés sur lui comme si c'était King Kong. J'ai pas l'impression que c'est les policiers que je rencontre dans la rue. Donc je suis assez bouleversé par ça.
Dans quelle France est-ce que vous avez commencé à faire de la musique?
C'est une bonne question. J'ai grandi à Sarcelles, donc on était mélangés. Des Juifs, des Arabes, des Antillais, des Africains, des Turcs, des Indiens, il y avait de tout. C'est une ville super riche au niveau de la culture et de la mixité. mais je sentais qu'on n'avait pas notre place en France.
Ça a quelque chose à voir avec l'envie, le désir de faire de la musique, Stomy Bugsy?
Oui, d'exister. Avant la musique, il y avait la danse avec le hip-hop et le break. Étant donné que moi, j'ai eu un parcours scolaire catastrophique. Le premier jour de mon entrée au CP, le professeur, qui s'appelait Monsieur Ripoli, la directrice de l'école, Madame Boujon, de ma maternelle, elle est venue le voir. C'était une communiste, une grande gueule, super adorable. Madame Boujon, elle est venue le voir, elle lui a dit, lui, le petit Gilles, il faut le surveiller parce que il assure, il est gentil comme tout et il est très intelligent. Elle a eu le malheur de dire ça à mon professeur de CP. Et donc lui, il m'a pris en grippe, il m'a dit, bon, Madame Boujon dit que tu es très intelligent, donc ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas aller au fond de la classe et quand les autres, ils auront atteint ton niveau, tu reviendras devant. Il m'a dit, tiens, des crayons et de la pâte à modeler. Amuse-toi au fond et tu reviendras devant. Et au final, je ne suis jamais revenu devant.
Vous dites, ce besoin d'exister, Stomy Bugsy, dans quelle mesure le groupe, avec le ministère amer, qui réunissait des artistes comme Passy ou Doc Gineco, vous a permis aussi d'exister à plusieurs, collectivement?
Oui, il y a eu la danse et après, le ministère amer, c'était comme si on s'est dit, les problèmes qu'on subit chaque jour, en tant que jeune, même pas jeune noir déjà, jeune en France, sont dans les ministères. Alors pour pouvoir combattre ça, on va créer notre propre ministère. Et grâce au hip-hop, grâce à la musique, grâce au ministère amer, je me suis transformé du petit papillon, du petit, même pas papillon, de la petite larve, je me suis transformé en dragon.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, au fond?
Vers 14 ans, hein, avec mon pote Rico, on breakait. Avant, c'est vraiment la danse qui m'a construit. Le breakdance, la danse. Avant la danse, j'étais vraiment le petit négrillon que personne regardait, que personne invitait dans le quartier, parce que j'étais un des plus pauvres de mon quartier avec moi et mon frère. On était mal habillés, pas de style. Mais dès que le hip-hop est arrivé, la danse est arrivée, là, tout a changé. On me voyait comme un super-héros.
Vous regardez.
Qui pouvait tourner sur la tête, tourner sur le dos, faire la coupole, avoir du style. Ouais, je dois tout au hip-hop, à la danse et au rap.
Les premiers textes, ils parlaient de quoi, Stomy Bugsy?
Au début, les premiers textes, c'est vraiment c'est du fun, tout au début. En 84, 83, avec l'émission HIP, HOP de ciné, c'était le fun, la danse,
joie,
l'éclat,
ouais.
La joie. Ouais. Et après, ça s'est politisé un peu.
En tout cas, on mesure à quel point l'écriture est importante pour vous, à travers la musique, mais aussi à travers le théâtre, puisque vous êtes co-auteur de la pièce que vous jouez actuellement. Mm-hmm. Un jour, j'irai à Détroit. Je me suis demandé, il vous apporte quoi, les mots, encore aujourd'hui?
Les mots, c'est tout, en fin de compte. Les mots, c'est la définition d'un homme. Quelqu'un peut être un SDF, mais si, quand il ouvre la bouche, il s'exprime bien, il devient quelqu'un. De Obama à Kennedy, à François Mitterrand, à Georges Marchais, à Malcolm X, à Martin Luther King, ce sont les mots.
Ce sont eux que vous citez qui vous ont appris à parler?
Moi, je trouve pas que je parle encore assez bien. Je peux écrire bien, aussi bien des scénarios, des pièces de théâtre et des chansons. Je trouve que j'ai encore des efforts à faire. Mais en même temps, j'ai pas envie de forcer ce trait-là. J'ai envie d'être moi-même aussi. J'ai pas envie d'être parfait.
Ça a pu être un complexe.
Ça peut être un complexe, mais je sais où sont mes points forts, où sont mes points faibles. Mais j'ai pas envie d'être monsieur parfait.
On écoute un point fort, là, tous les deux. Un titre incontournable. Mon papa, à moi, est un gangster en 1997. Vous êtes sur France Inter avec Stomy Bugsy. Vous écoutez Boomerang un vendredi.
Il me dit que c'est le studio, mais c'est vrai qu'il travaille dur, dur. Mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Dès l'ascenseur, il fait des clins d'œil aux mamans accompagnant leurs enfants. Il est épatant, pleure même d'un œil. De tous les côtés, il n'arrête pas de mater. Comme ça, comme si il était recherché. Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher. À 4h30, avec un style d'avant-gi, une nouvelle petite amie. Mon papa.
pas c'est le plus fort. Quand il entend papon, il s'évapore. Pas besoin de revolver.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'il est moins gangster, amer et ministère que gangster lover, hein, les yeux revolver, le sourire caliente, l'épaule caramel, bonbons et chocolat. Merci, pas pour moi, tu peux bien les offrir à un autre. Avec son sweatshirt à capuche violet, ce matin, le rappeur et comédien Stomy Bugsy, invité de Boomerang pour Un jour j'irai à Détroit. Cette pièce où un tirailleur sénégalais et d'autres soldats américains et français, on le disait, attendent leur heure dans une prison. Et à travers le destin de ces hommes, ce que vous interrogez, j'ai l'impression, au fond, c'est quand même l'idée de héros. Qu'est-ce que c'est un héros pour vous, Stomy Bugsy?
Justement, dans la pièce, on traite de ça. Le héros, c'est parfois reconnaître qu'on a été lâche. En fait, il n'y a pas de définition de héros. Parce qu'on peut être héros aujourd'hui, on peut être lâche demain. L'important, c'est d'avoir reconnu qu'on a été lâche.
Avec quel héros est-ce que vous avez grandi, vous?
Mohamed Ali, Malcolm X, Amilcar Cabral, Nelson Mandela. Je pense que Nelson Mandela, c'est le héros qui nous a le plus hanté dans notre jeunesse.
Vous en avez oublié une?
Il y a ma mère.
Ah, c'est ça.
Bah oui, oui, oui. Non, ça c'est même, là c'est mon cœur. C'est mon cœur, c'est mon père aussi, je pourrais dire aussi mon père, mais c'est clair que ma maman, c'est un super héros.
Vous dites que c'est une héroïne qui a toujours su vous consoler, Stomy Bugsy.
Oui, qui a toujours cru en moi, alors que c'était pas facile. Je vois avec mes enfants, j'ai un fils qui va avoir 30 ans, Bilal, et j'ai mon petit qui a 8 ans, qui s'appelle Lat Dior. Et je vois quand je vais le chercher à l'école, même s'il travaille bien, les professeurs, oui, nana, il a fait ça comme bêtise aujourd'hui, nana, il est distrait, il n'arrête pas de bouger. Je dis, mais il est plein de vie. Et on veut que l'enfant reste cloîtré sur sa chaise, qu'il ne bouge pas le genou, il ne bouge pas sa main, sa tête, qu'il ne regarde pas les oiseaux dehors en train de voler. On essaie de castrer les enfants. Et pour revenir à moi, je me dis, ça a dû être dur pour elle, de se dire que son fils, c'est... un cancre.
Il y a ce texte que vous lui avez consacré il y a 2 ans, je crois, où vous parlez des larmes que vous lui avez fait verser.
Mm-hmm.
De quelles larmes est-ce que vous parlez?
Les larmes de la garde à vue. Quand elle vient te chercher en garde à vue en pleine nuit, la police t'appelle, oui, venez chercher votre fils. Les larmes de la déception, les carnets de notes, les bulletins scolaires. Qui est cet enfant? C'est un touriste. Des zéros. C'est pour une mère, c'est dur.
Et vous, Stomy Bugsy, vous pleurez parfois?
En tout cas, en ce moment, je pleure beaucoup sur scène.
Quand est-ce que vos parents sont arrivés en France? Faut nous raconter.
Ils sont arrivés dans les années 1970.
Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur installation?
Quand ils sont arrivés dans les années 70 à Pigalle, ils habitaient rue Trudaine. Donc j'ai été conçu dans une chambre de bonne rue Trudaine, au dernier étage. Et je suis né à la clinique Marie-Louise, dans la même chambre que Johnny Hallyday, rue des Martyrs.
Pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté le Cap-Vert?
Pour travailler, pour fuir la misère. Il n'y avait pas de travail. Donc ils sont venus en France pour trouver du travail, trouver la vie. Et ils se sont rencontrés ici, d'ailleurs. Mon père, lui, il est parti du Sénégal. Elle, la mère du Cap-Vert. Et ils se sont rencontrés ici, dans les milieux capverdiens.
Et ce pays, justement, cette culture capverdienne, dans quelle mesure elle fait partie de vous?
Dans la façon de manger, de rire, de danser, de penser, cette mélancolie. Quand vous allez au Cap-Vert, les gens ils sont très solidaires. Quand vous partez de là-bas, dès que l'avion décolle, les larmes s'envolent.
Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois, Stomy Bugsy, que vous êtes rendu au Cap-Vert?
C'était assez tard. Mes parents n'avaient pas l'argent pour nous amener au Cap-Vert. Donc la première fois que j'ai découvert le Cap-Vert, je devais avoir 25 ans. Et dès que je suis arrivé, c'est comme si je connaissais. Les odeurs, je me baladais dans la rue. Déjà, dès que je suis arrivé dans mon quartier, les gens ils m'arrêtaient. Ah, boy Fitch de Vince. Ah, ouais. Il me disait, genre, tu es le petit-fils de Joulet de Vince.
Et puis genre, il me disait aussi, papa à moi est un gangster.
il me reconnaissait à mon visage que j'étais de telle famille.
Ah.
Voilà. Et non, c'est comme si je connaissais. Aucune surprise, juste j'ai été réconforté, bercé.
Je vous pose aussi la question, parce que l'histoire que vous racontez, dans Un jour j'irai avec toi, c'est aussi celle de mondes qui se rencontrent, qui apprennent les uns des autres. Quand est-ce que vous avez compris, vous, que l'identité, c'était quelque chose de complexe?
Quand, la première fois que j'étais au Cap-Vert, quand j'étais en Afrique, j'étais plusieurs fois en Afrique, en Guinée, au Sénégal, au Congo, au Mali, au Burkina Faso, j'étais à peu près partout. Quand j'étais aussi à Los Angeles, et quand j'étais vivre là-bas, l'identité, en fin de compte, elle est, c'est pas quelque chose de défini. C'est pour ça qu'il faut faire attention au patriotisme. Moi, je pense que le meilleur patriotisme, c'est son cœur.
Puis je me disais aussi, Tommy Bugsy, le fait d'être comédien, c'est une façon justement de ne pas être autre, mais d'être plusieurs, en fait. Tout le temps plusieurs.
Ouais. Je suis partagé avec ça. Parce que c'est vrai que, en fin de compte, dans l'acting, dans le métier d'acteur, ce qui est bien, c'est que, à force d'interpréter plusieurs personnages, on juge moins les gens. Quand on interprète un personnage, on essaye de le comprendre. Et quand on essaye de le comprendre, on le juge moins. Et moi, en fin de compte, être un acteur, ça a permis que je sois un meilleur être humain. Ça fait de moi une personne, une meilleure personne, mille fois mieux. T'as une belle voix, ça pourrait marcher.
C'est pour que ça aille plus vite.
T'es seule à ce point? Et tu crois que c'est si facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre?
Je rigolerais dès que quelqu'un m'ouvrira la bouche. Si on me touche le cul, je dirais « Ah, mais ça va pas, non ?» Au moindre sujet abordé, j'arrondirais les lèvres et je dirais « Ah non, ça, je sais pas, je connais pas. » Tu vois, c'est pas si compliqué d'être conne.
Je te laisse 3 jours pour aller voir la police. Si tu fais pas, eh ben je le ferai à ta place.
Les Jolies Choses, en 2001, adapté du roman de Virginie Despentes par Gilles Paquet-Brenner, avec Marion Cotillard notamment. Mm-hmm. Et votre personnage pose une question intéressante, Tommy Bugsy. Dans quelle mesure est-ce que c'est facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre?
C'est pas facile. Parce que finalement, pour revenir à la question de tout à l'heure, même quand on interprète un docteur, un héros, un lâche, un révolutionnaire ou un enfant des rues, finalement, la vérité, on la cherche toujours au fond de son cœur.
Ce métier de comédien, comment est-ce que vous l'avez appris, en fin de compte?
Déjà avec le rap, Ministère Amer, c'est vrai que c'était une infime partie de moi, rebelle, que j'ai exploité dans Ministère Amer. Après, dans ma carrière en solo, j'ai exploité plus le côté charmeur, lover. Et après, j'ai fait des films grâce à mon bagou, et parce qu'on a vu dans les clips que j'aimais jouer la comédie.
Puis il y avait la danse aussi.
La danse et tout.
Jouer de son corps.
Tout ça, ça m'a apporté beaucoup. Et après, je me suis dit, faut que je perfectionne ça. Et donc, j'ai pris des cours. Et après, je suis parti 5 ans à Los Angeles, à Stella Adler Acting School.
Et puis, je suppose qu'on a aussi des modèles, en fait, quand on commence ce métier. Avec quels acteurs est-ce que vous avez grandi?
Moi, vraiment, l'acteur qui me sidère à chaque fois, c'est Al Pacino.
Okay.
Al Pacino, pour le côté théâtre, quand il joue King Richard. C'est un acteur de théâtre, mais au cinéma. Et c'est cette fougue, cette intensité, cette générosité qui donne, qui est incroyable.
C'est une vraie question. À quoi ça tient, en fait, une performance de comédien pour vous?
D'être sur le fil du rasoir, c'est de donner, de prendre des risques, en fin de compte, c'est ça.
Et ça vaut pour toutes les performances, y compris les performances musicales?
Oui, la musique aussi, il faut donner. Il faut, qu'importe qu'il y ait 10 personnes, 10 000 personnes, il faut donner. Mais la musique, je dirais que c'est un peu plus facile quand on est sur scène parce qu'il y a la musique qui t'emporte. Au théâtre, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Si t'es dans un monologue ou une pièce de théâtre où c'est comme un puzzle, ou si ton partenaire de scène, il dit pas cette phrase, tu peux pas avancer. T'es bloqué. Et il n'y a aucune place, comme dans Un jour j'irai à Détroit, il n'y a aucune place à l'improvisation. Presque aucune place. Donc tu es figé, tu es bloqué. Donc le théâtre, c'est tu vas sur scène, mais sans filer, tu peux mourir sur scène. Et c'est ce danger-là. Chaque fois avant de monter sur scène, genre, dès qu'ils envoient la musique du générique, de la pièce de théâtre, dès le début, pendant 10 secondes, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Mon cœur commence à battre. Ah oui.
Merci infiniment, Tommy Bugsy, d'être là aussi, où personne ne vous attend ce matin, d'être venu dans cette émission. Je rappelle que votre pièce Un jour, j'irai à Détroit, mise en scène par Dominique Koub, avec David Desclos et Cyril Gaël également, c'est jusqu'au 29 mai au Théâtre du Gymnase. Merci aussi à Ludovic Asselot, à la technique ce matin, et à toute l'équipe de Boomerang cette semaine, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Victor Candelaft et Jean-Baptiste Audibert.
Bonjour.
C'était une joie de vous recevoir.
Bonjour Thomas Chevineau, comment ça va?
Bonjour Augustin, bah ça va bien, on est en direct du Festival du Livre de Paris aujourd'hui avec un sujet qui va vous plaire, vous le dévoreur de livres, parce qu'on parle chefs-d'œuvre et donc on attend les vôtres aussi, chers auditeurs, envoyez-nous votre liste de chefs-d'œuvre sur le site de France Inter.